Toute Santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Quand il s'agit d'évoquer la question de la contraception masculine, on pense à une chose, le fameux préservatif. Mais bien que méconnu, d'autres méthodes existent, oui, il y en a. Elles sont même efficaces. Alors, parce qu'il n'y a pas de raison pour que l'on n'applique pas, nous les hommes, les mêmes précautions que nos semblables les femmes, évoquons sur le plateau de Radio Campus Rennes toutes ces questions qui nous assaillent et qui se doivent d'être posées au moment de prendre la décision ou juste d'envisager une autre méthode de contraception. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, Élise Kemener, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du planning familial d'Ille-et-Vilaine.
Tout à fait.
Nous recevrons en insert téléphonique M. Pierre Collin, qui est président de l'association Ardécom. C'est l'association pour le recherche et le développement de la contraception masculine.
Tout à fait, oui.
Eh bien, on va commencer tout de suite. Le planning familial d'Ille-et-Vilaine, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le planning familial d'Ille-et-Vilaine, c'est une association qui a 50 ans et qui est organisée autour de deux centres de planification. Donc, les centres de planification, c'est des centres dans lesquels on peut trouver des consultations médicales pour de la contraception, du dépistage d'IST, des IVG, mais aussi du conseil psychologique ou des entretiens avec des conseillères qui sont formées sur les questions de sexualité, de couple et de santé sexuelle. On intervient aussi beaucoup à l'extérieur sur des interventions en collège, lycée, auprès aussi d'étudiants, d'adultes, des personnes handicapées. C'est organisé autour de deux centres, le premier à Rennes et le second à Saint-Malo.
Alors, le planning familial, on a souvent l'impression que c'est une affaire de femmes. Moi-même, bon, y étant allée, on pense plus souvent des femmes que des hommes. Mais les hommes peuvent y aller.
Bien sûr, on les accueille à bras ouverts. Le planning familial, c'est vraiment un lieu autour des sexualités. C'est un lieu pour parler de sexualité et de santé sexuelle. Donc, c'est vraiment un lieu qui est ouvert à toutes, tous, qu'on soit personne mineure ou personnes majeures, femmes, hommes, et puis à toutes les sexualités. C'est vraiment important. Et puis, on peut y trouver vraiment différents services avec des consultations médicales, avec on fait aussi des IVG. Donc, c'est vrai que dans des situations où on se retrouve vis-à-vis d'une grossesse qu'on ne souhaite pas poursuivre, on peut aussi venir nous voir. Il y a aussi des professionnels de l'écoute qui ont vraiment l'habitude de travailler sur ces questions-là, qui restent quand même de l'ordre de l'intime et du tabou. Bah, c'est notre métier. Donc, on peut venir en parler et puis avec bienveillance et sans jugement. Donc, c'est vraiment important de pouvoir utiliser les services du planning.
Et voilà. Vous parlez d'intervention extérieure. Si vous êtes là également, c'est parce que vous êtes intervenu il y a quelques semaines
à la
Maison
oui.
internationale de oui. Rennes à l'occasion d'une conférence débat sur la contraception masculine, justement.
Et oui, parce que dans notre réflexion, on s'est posé la question des publics qu'on accueillait au planning familial. Donc, surtout autour de la maîtrise de la fécondité, on a essentiellement des femmes ou des jeunes femmes qui viennent nous voir. Alors, parfois accompagnées de leurs compagnons, parfois pas. Et on s'est posé vraiment la question de la maîtrise de la fécondité. Qui portait cette responsabilité ? Est-ce que c'était partagé ? Est-ce que le choix d'une contraception était partagé dans le couple ? Ou est-ce que c'était aux femmes d'assumer l'entière responsabilité de la maîtrise de la fécondité ? Donc, évidemment, les conséquences ont un impact direct sur le corps des femmes. Et c'est en ça qu'il sera toujours important que les femmes puissent maîtriser leur fécondité. Mais dans une question de partage, on s'est posé pas mal de questions. C'est vrai que nous, dans nos interventions, notamment à l'extérieur, on essaye de travailler avec les jeunes hommes ou les hommes sur comment ils peuvent s'impliquer sur cette contraception, sur la maîtrise de la fécondité. Donc ça peut être accompagner leur compagne sur des rendez-vous médicaux, ça peut être acheter le contraceptif, ça peut être essayer d'y faire penser à leur compagne, mais on voulait aller un petit peu plus loin. On savait qu'il y avait des choses qui existaient en termes de contraception masculine et du coup on a travaillé ça sur la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016 et on a saisi l'opportunité des 60 ans du planning familial au niveau national avec comme mot d'ordre de se tourner vers l'avenir. Et l'opportunité aussi du mois de mars de la ville de Rennes qui est toujours très actif autour des droits des femmes pour essayer de travailler sur cette question qui reste méconnue en France de la contraception masculine. Donc c'est vrai que le planning familial a des liens étroits avec l'association Ardécom dont vous parliez, donc c'est l'association de recherche pour le développement de la contraception masculine qui est une association qui existe depuis longtemps. Pierre Collin vous en parlera mieux que moi, mais qui est une association qui existe depuis les années 80 et qui a développé des modes de contraception masculine de par l'expérience de ses adhérents, de ses membres qui ont testé des méthodes et puis des médecins avec lesquels ils ont travaillé. Donc avec quatre types de contraception, donc le préservatif qui est celui qui est le plus connu, la vasectomie, donc ouais, une contraception à visée définitive.
On en parlera tout à l'heure, justement.
Voilà, la contraception thermique et la contraception hormonale. Donc, à partir de ce constat, de voir qu'il y avait des choses qui existaient, on s'est vraiment posé la question de peut-être que ça pourrait correspondre à des couples ou à des hommes, simplement parce qu'ils voudraient maîtriser leur fécondité et avoir cette responsabilité portée par eux, ou dans des couples peut-être plus stables, où il y a pu avoir des difficultés sur une contraception pour la femme, essayer de réfléchir à d'autres méthodes. Et c'est vrai qu'on s'est heurté au peu de connaissances du monde médical, mais aussi du monde associatif. Nous aussi, on est en train de se former là-dessus, de ces moyens de contraception. Donc, on a contacté Ardécom pour qu'ils nous apportent leur soutien, et on a fait deux soirées, une à Saint-Malo le 10 mars et l'autre à Rennes le 11 mars, qui ont, me semble-t-il, vraiment intéressé et qui ont permis de soulever des réflexions, d'envisager des choses aussi pour la suite et pour travailler cette maîtrise de la fécondité.
Alors, peu de connaissances des associations, des médecins, et peu de connaissances des hommes tout court. Alors, pourquoi ici, et peut-être même particulièrement en France, nous avons le malheur d'être aussi mal informés sur les différentes contraceptions qui pourtant bel et bien existent?
Eh ben, je pense qu'il y a eu un gros mouvement de par les associations féministes, notamment le planning sur le développement de la contraception pour les femmes, de la maîtrise de la fécondité, parce que comme on le disait, l'impact est quand même sur leur corps et du coup ça semblait être quand même la première étape. Dans cette réflexion-là, les hommes ont aussi pu, notamment les membres d'Ardécom, réfléchir à un moment sur comment ils pouvaient aussi engager leur démarche de leur côté. Il n'y a pas eu d'impact, alors je ne sais pas pourquoi, on avait réfléchi sur le caractère latin peut-être du pays de la France, ça ne marche pas parce qu'en Espagne il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont recours à la vasectomie, donc cette piste n'est pas la bonne. En tout cas aujourd'hui les pouvoirs publics sont quand même actifs sur les politiques de maîtrise de la fécondité et de contraception, il n'y a aucun document public qui inclut l'ensemble des méthodes de contraception masculine. C'est aussi un domaine d'action qui n'a pas été du tout porté par le monde médical. Mmh. Et du coup, aujourd'hui en France, il y a deux médecins qui sont formés, l'un sur la contraception hormonale, l'autre sur la contraception thermique. Donc, après la vasectomie, c'est un petit peu plus répandu, mais on est sur quelque chose d'infinitésimal. Enfin, c'est vraiment...
Ça reste très confidentiel. Quoi.
Complètement confidentiel, oui.
C'est ça. Et justement, le monde médical qui rechigne à pratiquer, justement, comme vous dites, la vasectomie. Seulement 1% des hommes en France ont eu recours à ce moyen de contraception, je ne me trompe pas.
0,2%.
Justement, pourquoi le monde médical rechigne autant? Il y a eu des témoignages de personnes, par exemple, nous n'avons pas eu, malheureusement, dans l'émission là, Enjeux de santé, dans laquelle nous sommes, des témoignages de vivants de personnes ayant eu recours à la vasectomie, mais on peut lire sur des blogs différentes histoires aberrantes, mettant en cause des médecins qui, par leur ignorance, souvent, rechignent à pratiquer la vasectomie. Pourquoi?
Je pense que sur la vasectomie, comme sur les méthodes féminines de contraception à visée définitive, il y a une certaine chape de plomb du monde médical sur le fait qu'il y a des critères. Il y a une peur des médecins de la judaïsation des affaires médicales et du coup, il y a une certaine crainte que ces contraceptions à visée définitive, les personnes qui la feraient auraient des remords. Ensuite, du coup, le monde médical a créé une sorte de des critères d'âge, de nombre d'enfants pour pouvoir y avoir recours.
Et puis de qualité du sperme également.
Il y a plusieurs choses qui existent et c'est vrai que nous on porte aussi l'idée que les personnes sont les premières aptes à savoir ce dont elles ont besoin et avoir une autonomie sur leur corps et sur leur santé. Et du coup, la vasectomie, comme la ligature des trompes ou les autres méthodes définitives, sont pour nous des solutions de contraception pour des personnes qui le souhaiteraient.
La vasectomie est même une méthode qui est moins chère que la ligature des trompes dont vous parlez.
Tout à fait, c'est vraiment un acte chirurgical très simple et qui n'a pas de conséquences autres sur les relations sexuelles futures, à part celle de ne plus produire c'est pas de plus produire de spermatozoïdes, mais en tout cas, il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme, dans l'éjaculat, donc pas risque de grossesse derrière. Mais c'est vrai qu'on est sur des chiffres en Angleterre, notamment avec 20% d'hommes qui ont recours à la vasectomie. Mais c'est aussi des choses qui sont portées par les pouvoirs publics et par le monde médical. Et du coup, aujourd'hui en France, un homme qui souhaiterait avoir une vasectomie, il s'expose à quelque chose de compliqué parce qu'il va falloir qu'il trouve un médecin qui veuille bien le faire, qu'il fasse les démarches, etc. Et c'est pas simple, encore plus si on a moins de 40 ans ou si on n'a pas d'enfant.
Ah oui, c'est vrai que ne pas avoir d'enfant, c'est un critère.
Pas en termes légaux. Mais il y a certains médecins qui s'inquiètent, oui, de remords que pourraient avoir des hommes ou des femmes qui auraient recours à la contraception définitive, ouais.
Alors il y a aussi, chez certains médecins, qui j'espère sont de moins en moins nombreux, des critères mettant en cause la religion pratiquée par le patient. Cas rare, mais c'est arrivé.
Oui, je pense que c'est des cas rares. Après, sur la contraception en général, des fois, il y a des critères idéologiques qui rentrent en compte. Ouais.
Du coup, certains Français vont dans nos pays voisins, comme la Belgique ou la Grande-Bretagne. Est-ce qu'on n'est pas, nous, la France, les vilains petits canards de la pratique ?
Sur la vasectomie, mais sur comme l'ensemble des moyens de contraception, il y a un vrai travail à faire. On va faire comme souvent, hein. Peut-être que les mouvements associatifs, sociaux peuvent aussi porter cette idée-là et ce travail-là pour travailler main dans la main avec les médecins et puis essayer de répondre surtout aux demandes des personnes vis-à-vis de leur vie et de leur santé sexuelle.
D'accord. On va passer tout de suite à un petit peu de musique. Ce sera avec les Slits. Ça vous dit quelque chose ? C'est
pas
un groupe
tout.
Féminin des années 70-80, de la période post-punk. Donc les Slits avec Instant Hit, qui n'a pas été un hit, je crois, tiré de l'album Cut, sorti en 1979. Instant Hit, les Slits. Voilà, nous allons passer à l'interview de Monsieur Pierre Collin, président de l'association Ardécom, avec qui nous évoquerons ce que son association promouvoit autour des méthodes de contraception masculine. Pierre Collin.
Cette association date de 1978 à peu près. On a été les premiers à prendre une contraception masculine, mais c'était une démarche qui a résulté de groupes de parole d'hommes sur la cohérence qu'on devait avoir entre un non-désir d'enfant et d'assumer nous-mêmes sur notre propre corps la contraception. Donc on a démarré cette association pour dire aux gens toute la démarche qu'on avait et le fait qu'il y avait une contraception possible. Donc il y a eu les années SIDA qui ont arrêté un petit peu le mouvement et on a repris récemment, depuis 3 ans, toutes les réunions pour promouvoir effectivement cette démarche-là.
Est-ce que vous pourriez nous conter un peu la genèse de votre association? Comment se sont rencontrés tous ces hommes, tous vos copains, dans quel cadre? Comment avez-vous réussi à réunir autant de monde?
Au départ, on était quelques-uns dans différentes villes, que ce soit Rennes, Toulouse, Lyon, Paris, à être dans des groupes de parole. C'était au moment aussi où il y avait beaucoup de groupes de parole de femmes. On était dans une démarche d'analyser, de parler comment on vivait notre corps, comment on vivait notre sexualité, comment on vivait le travail, la relation aux enfants, la relation entre hommes, etc. Et c'était une démarche de genre, puisqu'on était dans l'analyse de ce que la société effectivement nous demandait comme automate pour la production, que ce soit la production d'enfants, la production dans nos emplois, donc d'être toujours disponible, toujours prêt, toujours fort, toujours bandant, etc. Et là, c'était un peu une démarche en disant, nous, on a envie d'arrêter d'être comme ça, et si on a envie d'arrêter, il faut qu'on soit cohérent et qu'on ne soit plus fécond. Donc on a cherché, et il y avait un médecin qui s'appelle le docteur Soufir, qui est toujours là, qui avait eu à répondre à des demandes de contraception parce que des femmes lui disaient, bon, écoutez, je suis diabétique ou j'ai des problèmes circulatoires, etc. Je veux prendre la pilule. Et qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous ne vous intéressez pas à la contraception masculine? Du coup, c'est un endocrinologue, il a cherché, il a trouvé des tas de recherches qui avaient été faites. Donc il y a eu deux médicaments qui étaient en pharmacie, il a couplé, un médicament qui arrête la spermatogénèse et de la testostérone qu'on se passait sur le corps pour pouvoir continuer à garder les poils, etc. Mmh. On a été une dizaine, puis une centaine à faire ça. Ça a été probant, on a plus de spermatozoïdes entre 1 et 3 mois. Et donc la réversibilité aussi a été prouvée, puisque le coprésident d'Ardécom avec moi, c'est Daniel Abtequier, et il a fait un enfant après, et voilà. Mmh. Donc c'est comme ça que ça a démarré, sur des groupes de parole.
Vous l'évoquez là, à l'instant, votre groupe avait fortement envie d'aller à l'encontre du stéréotype masculin qui nous dit, ouais. Voilà, soit un homme monte un meuble, soit un homme reproduit, laisse ta conjointe procéder à la contraception. Vous n'êtes pas du tout dans cette idée-là.
On est dans l'égalité par rapport à toute la vie. C'est-à-dire que contre le fait que la société met la femme ou mettait la femme... dans le rôle de faire des enfants, de s'occuper de la maison, etc. Et donc, on n'était pas du tout dans cette démarche-là. Donc, on avait assumé notre choix, même si la compagne venait à prendre une contraception, puisqu'on était un groupe témoin au départ. Et actuellement, on fait des démarches par rapport au ministère et avec le planning familial, dans cette optique-là, de pouvoir donner les moyens aux hommes et aux femmes d'avoir leur propre contraception, et s'ils le désirent, de pouvoir la prendre en alternance, puisqu'on sait que de toute façon, les médicaments sont pas inoffensifs, qu'il y a toujours des effets secondaires, on l'a vu pour la pilule pour femmes, et qu'elles sont là au niveau des bénéfices-risques, il faut s'assumer et éviter que nos compagnes aient des cancers, etc. Donc c'est à nous aussi de prendre nos risques et d'assumer ça, ça me paraît tout à fait normal.
Tout à fait. Parlons justement de ce que vous promouvez au sein de l'association Ardécom, les différentes méthodes de contraception pour nous, les hommes. Il y a notamment la contraception hormonale masculine et la contraception thermique.
L'hormonale, c'est aperçu qu'effectivement, en injectant un médicament qui est à base de testostérone, une fois par semaine, on bloque la spermatogénèse et on a toujours les attributs masculins. On prend de la testostérone. C'est une méthode qui est très efficace et actuellement il y a à peu près une trentaine d'hommes qui la prennent. C'est des médicaments qui sont en pharmacie et il n'y a pas d'effet secondaire à part éventuellement, un peu comme pour la pilule pour femmes, une prise de poids de 1 kg ou 2, mais c'est tout. Et donc ça peut être donné à tout le monde après une première analyse du sperme pour voir s'il y a une quantité de sperme qui est à réduire ou pas. Quelquefois on a des surprises et on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de sperme tout de suite. Ça, c'est une méthode qui est tout à fait probante. La deuxième, qui est la thermique.
Qui peut paraître un peu curieuse au premier abord quand on la découvre.
Qui, elle, repose sur le fait que les bourses sont, comme vous le savez, à l'extérieur du corps. Et donc, les gonades sont à 35 degrés au lieu de 37. Et il suffit, entre guillemets, de les remonter à 37 degrés pour que la spermatogénèse s'arrête. C'est un double slip, en fait, avec un trou pour laisser passer la verge, qui permet de maintenir collés au corps les deux gonades et de les maintenir à 37 degrés. C'est une méthode alors là qui est absolument, entre guillemets, chimiquement pure, puisqu'il n'y a pas du tout de produit, et c'est simplement un effet de la température. qui d'ailleurs avait été observé dans des maladies professionnelles, par exemple les sidérurgistes qui passent des barres chaudes entre les jambes ou les gens qui sont devant des fourneaux qui ont du mal à avoir des enfants, c'est à cause de cette chaleur qui élève la température des gonades. Et aussi culturellement, puisque les Japonais, par exemple, prenaient des bains à 40 degrés ou 41 degrés pour avoir un effet contraceptif.
Les Japonais ont eu un temps d'avance sur nous. Et nous venons d'apprendre que nos testicules doivent être à une température de 35 degrés.
Par exemple, les petits garçons dont les bourses ne descendent pas, on leur fait descendre. Ça s'appelle une cryptorchidie. Et effectivement, si on les laissait tels que, à ce moment-là, ils n'auraient jamais d'enfants.
La contraception thermique, hein, c'est une méthode comme ça qui, au premier abord, peut faire un peu peur, paraître un peu archaïque, mais qui, en fait, a fait toutes ses preuves et qui n'est absolument pas douloureuse.
Ah non, absolument pas, non. Elle est hyper efficace et elle est tout à fait naturelle et écologique.
Et en plus, c'est écologique, c'est parfait. Merci beaucoup, monsieur Pierre Collin. Nous rappelons que vous êtes président de l'association Ardécom. Et si l'on veut vous contacter, comment doit-on s'y prendre? Avez-vous un local, une antenne, du moins dans les alentours de la région rennaise?
Il y a un site internet qui s'appelle Contraception masculine et vous tombez sur Ardécom. Et donc, il y a les protocoles pour la contraception et puis des articles sociologiques, etc. Et il y a un autre site qui s'appelle 50-50, qui est un site sur l'égalité homme-femme, qui est fait par une féministe et qui est très bien aussi. Et les gens peuvent me contacter à pierrecollin, tout attaché, .corp@yahoo.fr.
Très bien. Merci encore beaucoup, monsieur Pierre Collin, pour votre intervention.
Merci à votre service. Et à bientôt. Merci.
À bientôt.
Et au revoir.
Merci à Pierre Collin de nous avoir fait découvrir les enjeux et les objectifs de son association Ardécom. Maintenant, revenons avec vous, Alice Kemener. Le choix de l'homme de pratiquer la contraception se fait également vis-à-vis des antécédents dans son couple. Par exemple, la conjointe peut avoir été soumise à un choc douloureux tel que la fausse couche. Et il y a une prise de conscience de l'homme qui dit « je ne veux plus voir la personne que j'aime souffrir » et donc je me mets en cause et je me dis « je peux faire changer les choses en mettant en place une contraception ». C'est quelque chose de fréquent ?
Pour des couples stables, les histoires dont j'ai pu avoir écho, c'est surtout des difficultés, notamment liées à certaines maladies ou des difficultés par rapport aux moyens de contraception féminins classiques qui existent, qui ont fait que l'homme du couple a décidé aussi de pouvoir essayer de s'impliquer là-dessus. Après, il y a quand même plein de couples qui utilisent le préservatif. C'est des choses qui existent, mais sur des couples stables, peut-être qu'il y a une certaine confiance à avoir hein, quand même en tant que femme, si c'est l'homme qui assume complètement la maîtrise de la fécondité du couple. Donc, il y a peut-être des choses où les deux pourraient avoir un moyen de contraception. Mais même pour des gens qui ne sont pas forcément sur un couple stable, je pense que ça peut aussi donner une certaine liberté. Comme la contraception féminine a pu donner de la liberté dans la sexualité des femmes, ça peut aussi peut-être donner de la liberté dans la sexualité des hommes. De pouvoir se dire, voilà, j'ai des relations sexuelles pour le plaisir et pas dans un but de procréation.
Oui, justement, ça peut changer la vie sexuelle, la libido d'un couple, cette décision-là, parce que on croit souvent que pratiquer ces méthodes-là atténue le plaisir, ce qui n'est pas du tout le cas.
Ah non, enfin, physiologiquement, ça n'a rien à voir, non. C'est couper les canaux déférents qui ne vont pas empêcher à l'homme de bander, d'éjaculer, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est de la méconnaissance, ça aussi. J'essaie à travailler aussi sur la connaissance de son corps, de comment, qu'est-ce que c'est la spermatogénèse, comment est fait à l'intérieur son sexe, comment il fonctionne, etc. Tout ça. C'est un vrai travail qui est apporté dans l'éducation à la sexualité par les associations, par les profs, par le milieu éducatif, et même pour les adultes, parce que je pense qu'on est plein d'adultes à pas savoir justement comment notre corps fonctionne réellement.
Ah justement, alors reparlons de la vasectomie. C'est une méthode de contraception qui a un impact irréversible, mais c'est tout à fait faux.
Alors, tout à fait faux. Aujourd'hui, en France, ça reste vrai. Après, dans des pays qui ont beaucoup de pratiques de la vasectomie, c'est vrai qu'il y a des médecins qui arrivent à recoller, entre guillemets, les canaux déférents et du coup, remettre des spermatozoïdes dans le sperme. Et il y a du coup des potentialités de grossesse qui peuvent se remettre en route après ce recollage des canaux déférents. Aujourd'hui, en France, la pratique est tellement confidentielle et du coup, c'est aussi en s'exerçant qu'on devient plus expert et puis qu'on a plus de maîtrise du geste chirurgical. Mais aujourd'hui, en France, on ne peut pas dire que ça soit pas irréversible.
Pourtant, parlant de l'opération chirurgicale même, c'est une opération qui est assez simple. Comment ça se déroule
Il suffit, entre guillemets, de faire une petite incision au niveau des bourses et puis d'extraire les canaux déférents et du coup de les couper. Et bon, bah, ça se réalise sous anesthésie locale ou générale.
Heureusement.
Et évidemment, c'est des gestes de chirurgie qui sont relativement simples, si on en a aussi l'habitude, mais ça, c'est comme tout geste chirurgical.
Et il y a un temps d'adaptation
Je pense qu'on se relève le lendemain, hein. Enfin, le jour même, enfin, il n'y a aucun souci. Hein. On avait même le vendredi soir dans la salle une personne qui avait vécu une vasectomie la veille. Bon, bah voilà.
Elle semblait bien se porter.
Ouais, elle n'avait pas l'air de souffrir. Donc, non, je pense que c'est très simple. Ouais.
Revenons sur les actions du planning familial. Mmh. Vous intervenez dans différents établissements.
Oui.
Vous avez des actions sur la ville de Rennes, des actions à prévoir là, dans peu de temps.
On va intervenir du coup sur le thème de la contraception masculine au cours de la semaine du féminisme à Rennes 2, le 6 avril à 18h15. Donc, je vous invite toutes et tous à venir échanger avec nous et puis essayer de réfléchir à ces méthodes. Et autrement, mes collègues sont au quotidien en animation à l'extérieur, dans différents lieux, que ça soit dans des écoles, collèges, lycées, auprès de CFA, auprès d'apprentis, au Resto du Cœur. C'est vraiment riche comme lieu d'intervention.
Et donc pour vous y rendre, amis auditrices et auditeurs, c'est au 11 boulevard de Lattre de Tassigny, à Rennes. Merci beaucoup Élise Kemener, directrice du planning familial d'Ille-et-Vilaine, d'être intervenue dans notre émission pour parler avec nous de la contraception masculine. Et merci également à M. Pierre Collin, président de l'association Ardécom, pour son intervention téléphonique.
Merci beaucoup, et puis je suis persuadée que c'est un sujet d'avenir.
Eh bien nous aussi, on l'espère. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Ce numéro d'Enjeux de santé est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les précédentes sur le site radiocampusrennes.fr. À bientôt et prenez soin de vous.